Europe Midi, écoutez le monde changer. François Claus.
Bonjour Jean Viard.
Bonjour.
Joyeux Noël à vous.
Mais à vous aussi, à tous ceux qui nous écoutent.
Merci d'être avec nous sur Europe 1 pour partager vos réflexions, vous qui adorez décrypter les comportements des Français. On a retrouvé une petite phrase de vous en 2017 sur les vacances de fin d'année. Vous disiez « Noël, c'est la fête de l'enfant, le jour de l'an, c'est celle du sexe ». Est-ce que ça veut dire cette année en 2020 qu'il faut inverser, Jean Viard ?
Non, je crois pas. Je crois que si vous voulez, cette année, bah, Noël, ça va être un Noël à la fois réduit, mais en même temps, on y a plus réfléchi. On a dû discuter dans toutes les familles qui respectent le virus, qui en invite, qui en invite pas. On a aussi, à Noël, il y avait un côté un peu obligatoire. Vous savez, c'est comme toutes les choses répétitives. Donc, je pense qu'il y a des gens qui, il y a plus de gens tout seuls, hein, si j'ai bien vu les études. Donc ça, il faut y penser parce que il y a beaucoup de gens qui se déplacent que pour Noël. Là, ils ne sont pas déplacés. Il y en a quand même 10 millions de Français qui vivent tout seuls. Donc tout ça est vrai. Après, je pense que la grande rupture, ça va être l'absence de réveillon, notamment pour les jeunes, où c'est quand même le moment où on jette sa gourme, comme on dit gentiment, et c'est le moment où on se retient pas, on boit un peu trop, etc. Et donc, effectivement, là, il va y avoir une grande restriction. Mais pour l'instant, Noël, je pense que ça va aller.
Oui, alors vous dites les conséquences, elles vont plutôt être sur le 31, la douleur que ça peut générer, les conséquences à long terme, plutôt que sur ce 25 en format réduit.
Oui, parce que d'abord, faut rappeler que la plupart des gens ont deux enfants. Donc, si vous voulez, le format réduit. En plus, les enfants ne sont pas comptés, si on peut dire, dans les six. Hein. Donc voilà. Et puis, vous savez, dans les familles, il y a toujours un peu une discussion. À quel moment on arrête d'aller faire Noël chez ses propres parents? Surtout que, ben, forcément, les parents ont deux familles, etc. C'est pas un sujet si facile que ça en a l'air. Hein. Je pense que souvent, ça nécessite discussion, etc. Ben là, je dirais qu'il y a une règle. Donc, la discussion est modifiée. Bon, après, voilà. Après, je pense qu'on s'en souviendra parce que c'est quand même un Noël pas comme les autres. C'est une année absolument épouvantable. On a quand même peur de tuer les plus vieux, ce qui est quand même l'inverse d'une fête de la naissance et de la vie et de l'amour. Donc voilà, il y a tout ça qui fait que, on est profondément traumatisé. Moi, je crois que c'est ça qu'il faut dire. 20% des gens sont dépressifs et tout. On est dans une société traumatisée, dans un monde traumatisé par quelque chose qu'on ne sait pas maîtriser. Et en même temps, si vous voulez, moi, je suis du côté de l'espérance. Je dis, attendez, on a inventé le vaccin. On vous avait dit avant, d'ailleurs, vous avez interrogé une médecin, une spécialiste. Disons qu'on en a encore pour 6 mois à tenir, quoi. Le fait qu'on ait un horizon fait que c'est supportable. Sans horizon, ça aurait été épouvantable.
Alors, pour corroborer vos propos, peut-être, je vous propose, Jean-Vierre, d'écouter avec nous ce reportage signé Diane Berger. Elle était hier soir dans une famille à Paris. Et on va sentir à la fois qu'il faut tout faire pour sauver ce Noël, notamment pour les enfants, mais que c'est bel et bien un Noël particulier. Reportage Diane Berger.
Tu déchires le papier ?
Voilà.
Sous le regard attendri de son père, les yeux de Léo s'agrandissent. Âgé d'un an et demi, le petit dernier de la famille découvre un xylophone. Ses deux frères, leur premier appareil photo. Mais malgré les cadeaux, la fête est bizarre, explique Nicolas, 11 ans.
J'ai l'habitude de voir des proches et cette année, je les vois pas.
Mais tu comprends que tu puisses pas les voir tout de suite ?
Oui, il y en a certains qui sont âgés. Je pourrais pas les voir jusqu'à la fin du Covid.
En effet, cette année, autour du sapin, pas de cousins, pas de grands-parents. On reste à 5, pas plus, décrit Olivier, le papa.
D'habitude, ce sont des beaucoup plus grandes tablées parce qu'en fait, on invite des personnes âgées, on invite des gens qu'on voit pas souvent. Et là, soit on a peur de les inviter, soit elles-mêmes préfèrent rester chez elles.
Alors, son petit dernier dans les bras, Nathalie multiplie les efforts. Séances photo, chant de Noël, tout pour garder le moral.
Là, c'est vrai qu'on essaie d'égayer un petit peu la situation, créer un moment festif avec Noël. Pour que Noël reste magique, en fait.
Cette soirée, ils comptent bien la partager ensuite. Ils enverront les photos à tous ceux qui n'ont pas pu être là.
Joyeux Noël.
Oui, on sent qu'il y a à la fois un petit peu de tristesse et un effort pour tout préserver. Ce petit enfant de 11 ans, là, c'est touchant ce qu'il dit. On sent que cette distanciation imposée là, affecte durablement les liens familiaux, Jean Viard.
C'est une année terrible pour les enfants. Ils ont entendu parler de la mort absolument en permanence. Ils se sont retrouvés confinés, surtout la première fois avec leurs parents. Je veux dire, c'était pas évident sans leurs copains. On a bien vu à quel point l'école, c'est la deuxième maison des enfants. Je veux dire, je crois que beaucoup de parents s'étaient pas rendu compte que l'importance de l'école, pas seulement pour apprendre, mais aussi comme lieu de vie, d'amitié, d'amour, d'affection, etc. Donc je pense que pour les enfants, ça a été une année terrible. Ils vont être traumatisés pour toute leur vie. C'est une génération qui a vraiment beaucoup souffert. Hein. Et les adolescents, c'est quand même 56% des clients des Restos du Cœur. Je pense pense que cette traumatisme, cette période a traumatisé la jeunesse. Mais juste une anecdote, vous savez, Noël, ça n'a pas toujours été comme ça. Il y a une anecdote que j'aime bien, c'est qu'en 1951, on a brûlé le Père Noël sur le parvis de la cathédrale de Dijon, avec le soutien du clergé qui trouvait que ça devenait trop une fête de la consommation. Parce que le Père Noël, c'est un païen, en fait. La religion catholique, évidemment, c'est la religion de la moitié des Français, mais le Père Noël, c'est un païen. Et ce qui est amusant, c'est qu'en 51, le maire de Dijon, c'est un chanoine, le chanoine Kir, et le lendemain, il a fait marcher un Père Noël sur la mairie en disant « Moi, je suis chanoine, mais quand même, je ne brûle pas le Père Noël.
» Chanoine qui est resté, on le sait, évidemment, dans toute l'histoire, notamment du côté des comptoirs de nos amis restaurateurs ou des brasseries qui ne sont pas ouvertes en ce moment. Alors, vous l'évoquiez à l'instant, Jean Viard, oui, Noël, fête religieuse, et on a senti que dans les circonstances particulières, cette fête qui a été devenue celle du triomphe païen de la consommation qu'on dénonçait dans les années 50, eh bien, il y a peut-être du fait de l'épidémie, dans des circonstances particulières, ce Noël religieux. Écoutons ce que notre reporter correspondant dans l'Ouest, Charles Guyard, a recueilli du côté de Taron. Sur Loire.
Bonjour monsieur, venez, je vais vous accompagner.
À l'entrée de l'église, après quelques gouttes de gel hydroalcoolique versées sur les mains, Marie-Thérèse accueille les fidèles pour la messe de Noël.
Vous préférez les transepts ou la nef ?
Dans l'édifice, les familles sont regroupées par bancs, eux-mêmes éloignés les uns des autres. Et au bout de chaque banc, une feuille blanche est posée lorsque celui-ci est complet. Pendant la cérémonie, les déplacements sont ensuite limités au seul temps fort, le prêtre Arnaud de Guibert.
Les gens gardent l'espacement, ça prend un petit peu plus de temps que d'habitude. On leur demande de bien retourner à la place où ils étaient avant.
Une place qu'il était conseillé de réserver sur internet, c'est ce qu'a fait Damien pour lui et sa famille.
Sur le site de la paroisse, on rentre le nom, le nombre de personnes. Voilà, on a mis 5 personnes avec les enfants et ça permet de décompter un peu le nombre de places théoriquement disponibles pour la messe.
Une manière en effet de répartir l'affluence sur les 15 cérémonies organisées pour ce Noël 2020 au lieu de 9 les autres années. Le père Arnaud de Guibert.
Grâce aux inscriptions, on sait que quand une personne s'inscrit, elle inscrit en moyenne 3 personnes et demie. Oui, donc il y a des messes qui entre guillemets sont pleines et il y en a où il reste des places.
Ce jeudi, les messes se sont enchaînées de 16h à 23h dans les 9 églises de la paroisse, laquelle a même obtenu un renfort de prêtres pour tenir la cadence. L'une de ces cérémonies était même diffusée en direct sur internet pour les pratiquants préférant rester chez eux.
Bonne fête de Noël.
Taron, Charles Guyard, Europe 1.
Noël, qui avait tendance, Jean Viard, à devenir plutôt une fête de famille, fête des enfants, redeviendrait-elle une fête religieuse dans un besoin de spiritualité qu'on aurait pour mieux résister à ce monde extérieur cruel ?
Il y a partout une montée du religieux, si vous voulez, depuis l'effondrement des valeurs du politique. Je crois que c'est pas propre à l'islamisme, à l'islam dont on parle beaucoup, c'est vrai sans doute aussi chez les catholiques. Après, si vous voulez, en France, pour donner juste un chiffre, mais il y a à peu près 38 millions de Français qui se reconnaissent de culture chrétienne, de culture. Et il y a que 7% qui vont à la messe. Il y en a plus à la messe de Noël, peut-être 15%, 20%. Donc voilà, il y a toutes ces importances. Faut pas non plus augmenter l'importance, mais c'est vrai que c'est le premier monde culturel, c'est le monde chrétien. Le deuxième, évidemment, c'est le monde athée, de très loin, les gens qui se reconnaissent sans religion, qui sont à peu près 20-25 millions, et puis à peu près 5-6 millions de gens qui se reconnaissent de culture musulmane. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que je pense qu'il y a des tas de familles musulmanes où on fait Noël pour les cadeaux, pour l'enfant. Vous voyez, c'est une fête de l'espérance, quoi. D'ailleurs, Jésus est un prophète aussi chez les musulmans, faut toujours le répéter, les Français savent pas toujours. Donc, si vous voulez, je pense que c'est devenu une grande fête de l'enfance, de l'amour, et au fond, du triomphe de la famille dans un monde instable, souvent des familles recomposées, hein, 30% des familles sont recomposées, c'est pas forcément des familles classiques et tout. Donc voilà, je crois que c'est ça qu'il faut sauver, que chaque religion sauve ses valeurs, c'est bien normal, mais cette fête de l'enfance, ce désir de naissance, en plus en ce moment, avec tous les morts qu'on a eus, et surtout toute la peur de mort, parce qu'on a eu bien plus peur qu'il n'y ait de victimes, heureusement, il faut aussi dire aussi, on a sauvé des millions de gens. Je veux dire, depuis un an, on estimait qu'il y aurait entre 50 et 80 millions de morts, on est à peu près à 2 millions. En France, on était à 500-600 000, on est à 60 000. Donc, si vous voulez, bien sûr qu'il faut pleurer les morts, mais il faut aussi se réjouir de tous les vieux, tous les anciens, je dis vieux parce que c'est mon âge, tous les anciens qu'on a sauvés, je crois que c'est le moment de le faire le jour de Noël.
Absolument. Alors, il y a dernier élément rituel total, c'est le réveillon à la française. Moi, j'étais sur un marché du 15e arrondissement hier, là, mais on se bousculait, les poissonneries, les bouchers, les charcuteries, et même si Covid oblige, on était en format plus restreint, visiblement, à défaut de consommer plus, on était obligé de consommer moins, on a consommé mieux. Yasmina Katou, ce matin, est allée tendre son micro dans les étals du 15e arrondissement de Paris.
Et les retardataires se pressent pour finaliser les achats du repas de ce midi. À l'honneur, les plateaux de fruits de mer commandés la veille pour les plus organisés. Éric Poissonnier a préparé une trentaine de plateaux.
Ici, nous avons donc Des chaloupes, de homards, huîtres, praires, crevettes, langoustines.
Marie, elle, n'a pas eu le temps de commander. La Parisienne est soulagée d'avoir trouvé son bonheur in extremis.
Je viens prendre l'entrée pour le repas de midi chez ma sœur, donc des crevettes roses en entrée. Du saumon fumé.
Les crevettes, vous allez les préparer comment ?
Tout simple, avec du citron, la simplicité.
Marie prévoit des clémentines pour le dessert, mais les plus gourmands font la queue devant une boulangerie. Christine salive devant la vitrine.
Bûche au chocolat, et il y a des petites boules de, individuelles avec parfum fraise, noix de coco. Bonjour ! C'est des bûches de 8 ou 10 ? Alors je vais prendre une 4 au chocolat noir.
Elle est belle, hein ?
Oui, elles sont très très bonnes. Et en fait, en bouche, ça fond complètement.
C'est un peu comme une mousse au chocolat, quoi.
Exactement, avec des copeaux de chocolat dessus, quoi. C'est magique.
La magie de cette bûche ne lui fait pas oublier les gestes barrières. Christine promet, dès la fin du repas, elle remettra son masque.
Incontournable plaisir à la française, Jean Viard, qui nous met l'eau à la bouche à nous aussi, là, qui ne sommes pas en train de manger, mais de faire de la radio. Ça, en revanche, c'est du Made in France pur sucre.
Oui, puis si vous voulez, c'est un redéveloppement d'abord de l'artisanat de qualité, il faut le dire, qui était déjà là, qui s'accentue. Pendant la pandémie, on a beaucoup consommé local, ne fût-ce que parce que c'était à côté, etc. Donc tout ça va dans le même sens. Et puis il faut dire une chose, la société s'est coupée en deux, entre ceux qui ont fait beaucoup d'économies, donc là ils peuvent dépenser sans compter, et ceux qui ont beaucoup de mal, j'allais dire presque à manger pour certains, en tout cas pour les fins de mois. Voilà, il y a une grande coupure, quoi. Mais après tout, il ne faut pas que ça empêche non plus de manger de qualité, de valoriser les bons artisans. Moi, je pense que si vous voulez, les produits mondialisés, standardisés, IKEA vient de supprimer son catalogue, je pense qu'on va aller vers une période d'esprit des lieux, d'identité locale, et qu'au fond, c'est ça aussi que nous disent ces fêtes, parce que c'est pas exactement les mêmes plats qu'on fait en Bretagne, en Provence, etc., ou à l'étranger, en Italie, en Espagne. Donc, je crois que c'est intéressant de valoriser la qualité du travail artisanal à travers cette fête aussi.
Merci beaucoup Jean Viard de nous avoir accompagné dans toutes ces réflexions. Vous dont on peut lire alors le dernier travail, vous êtes très prolifique hein, Jean Viard, mais le dernier en date, c'est La Page Blanche aux éditions de l'Aube. Merci d'avoir partagé ces réflexions là autour de Noël et puis à très bientôt vraisemblablement sur l'antenne d'Europe 1.
Merci de m'avoir invité, bon Noël à tout le monde. Allez, au revoir.
Et bon Noël à nos auditeurs que je remercie une nouvelle fois de leur fidélité. Vous retrouverez dès lundi prochain l'ami Patrick Cohen qui sera là au rendez-vous de la mi-journée. L'occasion pour moi de remercier toute l'équipe avec laquelle j'ai travaillé durant cette semaine, sous la houlette de Daniel Boudier, Fabien Etchecopard, Philippe Battistelli, Nicolas Bodin était toute la semaine à la réalisation. Marc Logelin et Gaël Chica m'ont aidé à programmer les invités et à préparer ce journal. Une nouvelle fois, joyeux Noël. Dans un instant, le journal de 13h. Et puis, Noël ou pas Noël, la France bouge. Donc, on la retrouvera tout à l'heure, juste après le journal.